Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que la paix soit avec vous tous. Vous avez traversé la nuit, vous avez traversé la mort. L'aube est arrivée, le matin est levé et tu es revenu à la vie. Et aujourd'hui, tu, Seigneur, tu vis parmi nous. Béni sois-tu, Jésus, toi le crucifié, toi le ressuscité. Alléluia. Et je vous invite à chanter le premier cantique parmi les spontanés. Me voici, Seigneur Sauveur. Nous louons Dieu avec le psaume 118. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les êtres humains. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Et nous chantons page 467, 467, le cantique 34-29, victoire au Seigneur de la vie. Prenez place. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous, que vous soyez des fidèles, des réguliers, des moins réguliers, ou que vous veniez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Peut-être avez-vous remarqué que nous avons un absent parmi les plus fidèles, habituellement. Le président du Conseil, Pierre, vous savez peut-être, on a perdu son père dans la nuit entre vendredi et samedi, si ma mémoire est bonne. Enfin, juste là, quoi. Donc, nous sommes bien sûr en pensée avec lui dans ce moment difficile. Ah, je ne l'ai pas. Ah oui. Vous avez entendu ou? Vendredi, 14h30, Saint-Joriot. Pardon ? À l'église, la famille de Pierre est catholique. Nous plaçons devant Dieu notre vie. Souvenez-vous, lorsque les femmes arrivent au tombeau, elles s'interrogent. Qui nous roulera la pierre? Elles arrivent, elles sont bouleversées, le tombeau est ouvert et la pierre a été roulée. Nous prions. Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce nos obscurités. Roule la pierre de notre maison, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Roule la pierre de notre indifférence, que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur des chemins d'espérance. Roule la pierre de notre incrédulité, que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Amen. Tel que je suis. Frères et sœurs, la pierre a été roulée. La vie a vaincu la mort, le Christ a balayé les péchés. Le péché, la nuit, laisse place à l'aurore. Dieu nous ressuscite avec Jésus-Christ. Amen. À toi nos louanges. Nous pouvons nous lever. Nous sommes pardonnés et libérés. Écoutons ce que Dieu nous donne, nous demande et nous donne la force de faire. Nous le trouvons dans le psaume 19. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi ton serviteur en est illuminé. Elle est gardée, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent, préserve ainsi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune prise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Pour qu'aujourd'hui je sois libre. Prenez place. Lorsque j'ai regardé les lectures proposées pour ce jour, j'étais ennuyé parce que celle que j'avais choisie pour dimanche dernier. Voilà ce qui arrive quand on ne suit pas le... Voilà. Donc j'ai changé évidemment les lectures ce jour. Et la première se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Ça, c'est la fin et la suite d'un passage assez connu, c'est celui de Élie à l'Horeb. Vous savez, c'est le moment où Dieu se révèle à Élie. D'abord, Dieu n'est pas dans le feu, il n'est pas dans le coup de vent, il n'est pas dans le tonnerre, pour se révéler dans une voix qui parle à Élie. Et c'est la fin de cet enseignement que Élie entend, les dernières instructions que Dieu lui donne à ce moment-là. Instructions qu'on peut imaginer que Élie ne reçoit pas de très bonne grâce. Le second texte est un passage de l'évangile de Luc qui se place juste avant la passion, mais qui annonce déjà ce qui va suivre. Avant d'écouter ces lectures, nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour les comprendre. Nous prions. Aide-nous, Seigneur, à ne plus chercher le Christ dans les tombeaux vides. Au lendemain de Pâques, dissipe nos doutes, fais de nous des croyants. Aide-nous, Seigneur, à accueillir dans notre vie le Christ ressuscité. Éclaire notre route, fais de nous des vivants.
Alors, le premier texte est tiré du premier livre des Rois, 19, verset 16, verset 19 à 21. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Évangile de Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »
Prenez place. Je te suivrai partout où tu iras. En voilà une belle déclaration d'amour, carrément. Peut-être est-elle inspirée par la parole de Ruth, la Moabite, dans le livre du même nom. Parole qu'elle adresse à sa belle-mère Noémie en lui disant : « Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. » Sacrée déclaration. Et je me permets une digression, c'est assez rare comme déclaration qu'on fait comme ça à sa belle-mère. Vous en faites ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, peut-être qu'en arrière-fond, il y avait chez la personne qui vient vers Jésus cette parole biblique. Quand il lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus, comme Élie, a des réponses assez dures à ceux qui sont venus spontanément pour le suivre. Alors, peut-être que vous n'avez pas perçu la réponse dure d'Élie parce que ça dépend des traductions. Dans la traduction que nous a lue Aude, c'est « va, je ne sais plus exactement, mais vas-y, je t'attends ». En gros, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est un peu l'idée. Si vous prenez la traduction qui est sur la Bible, Élie lui répond « Tu fais ce que tu veux, je ne t'ai rien demandé. » On voit quand même une certaine différence dans les traductions. Ce n'est pas une différence de traduction, là, c'est une différence de manuscrit. Hein, c'est deux manuscrits différents. Bon, bref, des réponses assez dures. Chez Jésus, il s'agit d'une mise en garde. On peut sous-entendre « Me suivre, ce n'est pas une activité dominicale du dimanche, un loisir. » Dès lors, il met en garde contre un enthousiasme un peu trop rapide. La vie en chemin avec Jésus est une vie exigeante, parfois difficile, pénible, et comme le semble prouver l'épisode du village de Samarie où ils n'ont pas été reçus, où ils ont dû partir. La réponse d'Élie ressemble quand même un peu plus, enfin je prends la réponse dure, hein, celle que je vous ai citée, ressemble plus à de la mauvaise humeur et à de la mauvaise foi. On dirait que ce n'est que de mauvaise grâce qu'il se plie à l'ordre qu'il a reçu de Dieu, celui de prendre Élie comme disciple. « Tu peux retourner à ton travail, » répond Élie, « qu'est-ce que tu veux que ça, qu'est-ce que je t'ai demandé quelque chose ?» Vous reconnaîtrez que c'est à la limite de la mauvaise foi puisqu'il lui a lancé son manteau dessus. Et chose étonnante, et intelligent et attentif comme je vous connais, vous l'avez certainement remarqué, dans les deux textes, il est question de labour, d'adieu à faire à sa famille. Mais là où Élie tolère, Jésus interdit. Pourquoi ? Une seule réponse possible, a priori, l'urgence. Pas le temps. Pas une seconde à perdre pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume des cieux doit occuper la première place dans la vie de ceux qui décident de suivre le Christ, avant la piété filiale, avant la famille même. Les disciples, Pierre en tête, ont abandonné toute leur famille pour suivre Jésus. Bon, on apprendra par la suite, par la plume de l'apôtre Paul, qu'après Pâques, ils voyagent avec leurs épouses. Soit. Les situations de Jésus et d'Élie sont à la fois très semblables et très différentes. Tous deux avaient des ennemis qui cherchaient à les tuer. Tous deux avaient fait de grands prodiges. Tous deux étaient de grands prophètes, de grands porteurs de la parole de Dieu. Mais Élie n'avait plus de mission, ou presque plus. Il avait fait le plus gros. Il lui restait à former son successeur. Souvenez-vous des paroles, qui sera prophète à ta place. C'est le genre de truc qui sent la retraite, hein, quand même. Pas sûr qu'Élie ait vraiment apprécié. Jésus, lui, de son côté, avait le plus dur à faire devant lui. Il devait trouver un successeur à former. Élie devait trouver un successeur à former, quelqu'un capable de prendre son flambeau, de continuer son travail, de poursuivre son œuvre. Mais Jésus, lui, ne cherchait pas une telle personne. Il allait lui-même parachever son œuvre, celle du Père. Et il n'avait de besoin que de compagnons de route, compagnons qui d'ailleurs l'abandonneront au moment suprême. Est-ce que Jésus le savait déjà ? Il devait s'en douter. Il connaissait bien les humains et leurs faiblesses. Élie avait du temps. Il avait même envie de prendre son temps, sans doute, pour pas partir trop tôt. Le royaume de Dieu, pour Jésus, est là. Et les hésitations n'ont pas de place. Nous ne savons pas ce que deviennent les trois hommes venus vers Jésus. Mais le récit laisse sous-entendre, par son silence, que tout comme l'homme riche, ils sont repartis un peu penauds. Peut-être êtes-vous comme moi un peu interloqué par les réponses brutales de Jésus. Jésus affirme que l'enthousiasme n'est pas suffisant. Il faut une décision réfléchie qui coupe radicalement avec le passé, une conversion. L'enthousiasme est souvent comme un feu de paille, beaucoup de lumière, peu de chaleur et d'une extrême courte durée. Jésus nous rappelle qu'être disciple est un engagement dans la durée et la fidélité. Nombreux sont les nouveaux convertis qui brûlent, mais rapidement leur feu s'éteint et ils retombent dans une situation d'inertie au royaume, situation pire que celle qui précédait. Je te suivrai partout où tu iras. Ne promettons pas à la légère des choses que nous ne sommes pas capables de tenir. Nous ne sommes pas le Christ et nous n'avons pas reçu du Père la mission de sauver le monde. Mais nous avons reçu l'appel de Jésus qui nous dit « Suis-moi ». Simplement, « Suis-moi ». Ça me laisse un peu perplexe, à tel ordre. Parce que, d'accord, au temps de Jésus, imaginons, vous croisez Jésus, il vous dit « suis-moi », ça a un sens concret, coûteux. Certes, il faut tout abandonner et suivre physiquement Jésus dans ses pérégrinations. D'accord, c'est exigeant, mais au moins la personne en question voyait concrètement de quoi il s'agissait. Pour nous, suivre Jésus, on a tous nos idées, presque tous nos idées, il y a bien sûr ceux qui s'interrogent, mais beaucoup ont leur petite ou leur grande idée de savoir ce qu'est que suivre Jésus. Mais avec un peu d'honnêteté, un peu de recul, nous sommes quand même obligés de nous demander « Est-ce que ma façon de suivre Jésus est la bonne ? Est-ce que je n'en fais pas un peu trop ? Ou au contraire, peut-être plus souvent, est-ce que j'en fais assez ?» À notre décharge, il faut bien reconnaître que c'est quand même beaucoup moins concret. Alors, ce n'est pas concret, quand je dis ce n'est pas concret, je ne parle pas de vivre avec Jésus, c'est quelque chose de concret, mais suivre Jésus, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'ordre paraît plus subjectif, plus sujet à interprétation. Pourtant, c'est cet ordre-là qui nous est donné. Suis-moi. Et comme ces hommes, souvent nous répondons oui, oui, mais d'abord je dois faire ceci et puis aussi cela. Je ne peux pas faire plus parce que j'ai ceci ou cela encore à faire et ces choses-là ne souffrent pas de délai. À chaque fois que nous répondons cela, nous sommes perdus pour le royaume des cieux et le royaume des cieux est perdu pour nous. Ne dramatisons pas mes propos. Cette perte n'est pas définitive, mais nous avons raté une occasion. L'Évangile nous l'affirme, Il est urgent de nous mettre à la suite du Christ et de travailler avec lui à son royaume. Ne plus regarder en arrière, ne plus vivre dans le passé. Avoir une piété tournée vers le passé, c'est le plus sûr moyen de ne pas saisir le royaume. Nous sommes beaucoup trop tournés vers le passé. Un passé dont nous sommes fiers, peut-être à juste titre, mais Jésus rappelle que c'est le présent qui importe et qui prime surtout. Le présent est le seul moment où nous pouvons agir. C'est une évidence. Cela ne signifie pas que le passé est nul et non avenu, qu'il n'est pas source d'enseignement ou de sagesse, mais simplement qu'il n'est pas forcément à reproduire ou à imiter. Je me souviens qu'un jour, je me promenais en ville et je suis tombé par hasard sur la terrasse d'un café à un camarade d'études. Et je lui demande de ses nouvelles et il me dit qu'il appartient à une communauté dont il est le pasteur. Et je lui dis, comment ça se passe avec cette communauté ? Il me dit, on est en train de mourir de ce qui a marché. Eh oui, ça avait marché, donc on s'est entêté, ça avait marché, ça remarchera, ça devait marcher, et ça ne marchait plus. On est en train de mourir de ce qui a marché. Travailler aujourd'hui au royaume n'est pas plonger dans une forme, à l'inverse, de présentisme, ou jouir de l'instant présent sans penser à l'avenir. Non. Dans mon discours, saisir le moment présent, c'est exercer sa responsabilité, s'engager pour le royaume de Dieu aujourd'hui. Ne pas regretter le passé, ne pas attendre des lendemains qui chantent, mais transformer le présent. Saisir le réel avec courage. Ne pas se perdre en vaines pensées. Se mettre en marche à la suite du Christ. Mais non, nous continuons à regretter un passé souvent mythifié. L'âge d'or n'a jamais existé, et à déplorer un avenir qui s'annonce peu radieux. Même remplis de bonne volonté, nous trouvons toujours des actions préalables à accomplir avant de nous mettre pleinement au travail. Il faut d'abord que... C'est parfois de la mauvaise foi, mais c'est souvent qu'il y a de bonnes raisons. Nous avons tant de choses à faire. Comme pour tout, c'est une question de priorité. Et Élisée alors. Lui aussi a demandé un délai. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Il a même été un peu plus loin puisqu'il a pris le temps de prendre une paire de bœufs, de les offrir en sacrifice, de faire cuire leur chair et de la donner à manger au peuple. Pas une vision précise des choses, mais enfin ça a pris un peu de temps, me semble-t-il. Et ce temps que prit Élisée avant de partir n'était ni hésitation ni atermoiement. C'est le temps qu'il lui fallait pour rendre grâce au Seigneur et faire la coupure avec le passé. Une fois cela fait, il se mit en route comme serviteur. Et il n'y a pas eu d'autre, il faut d'abord que. Nous aurions tendance à rajouter au fur et à mesure pour ne finalement jamais partir. Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Parole dure, radicale. Lorsqu'on se met en route, il faut aller jusqu'au bout et faire le deuil de ce qu'on laisse derrière soi. Labourer, c'est espérer. Celui qui n'espère pas la moisson ne laboure ni ne sème. L'espérance de la moisson est la force du laboureur. Labourer consomme beaucoup de temps et d'énergie. Ce n'est pas un travail facile. De plus, les gains ne sont ni assurés ni rapides. Encore moins immédiat. Mais le laboureur trace son sillon sans partir dans tous les sens. En latin, sortir de son sillon, c'est le verbe délirer, ce qui déjà à l'époque signifiait perdre la raison. Devant une tâche ardue et longue, mais porteuse d'espérance, le fou n'est pas celui qui s'y attache sans dévier, ni même celui qui la refuserait a priori, mais c'est celui qui l'a fait mal ou qui l'a fait à moitié. Celui-là, délire. Alors, ayons à la suite du Christ une âme de laboureur, que l'espérance du royaume dirige, qu'elle soit notre force. Amen. Pour ceux d'entre vous qui auraient été un peu surpris que Élisée laboure avec 12 paires de bœufs, ce qui paraîtrait un peu beaucoup comme attelage, on peut juste imaginer, c'est une interprétation, que outre la paire de bœufs soit aussi une unité de mesure de surface agraire. C'est la surface qu'on peut labourer en une journée avec une paire de bœufs. Mais ça reste sujet à discussion. Enfin, 24 bœufs sur un truc, ça me paraît beaucoup. Bien, je vous invite à chanter le psaume 24, les strophes 1 et 4, page 50. Strophes 1 et 4, page 50 du psaume 24. Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi, celle qui porte le numéro 2 à la fin de l'ouvrage. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois que l'Église du Christ, secrète et universelle, invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les humains sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Heureux qui se confie en toi. Prenez place. Dans les secondes épîtres aux Corinthiens, nous trouvons ceci: Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur Dieu, c'est en ton nom que nous avons fait cette offrande, c'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons. Amen. Quelques annonces.
Alors, tout d'abord, merci à Claude Françoise pour la musique. Donc je vais vous faire les annonces de la semaine qui arrive. Il y a des cultes au temple à 10h tous les dimanches, sauf le 26 avril, il y a un culte consistorial à 14h au centre La Ruche à Manigot. Voilà, pour ceux qui veulent faire du covoiturage, il faut s'adresser à Pierre Bouvatier, qui coordonnera le covoiturage. Donc ça c'est pour le culte du 26 avril. Ensuite, nous avons le mardi 14, la chorale de 19h15 à 20h45. Ensuite, le mercredi 15, au soir de 18h à 19h, le groupe prière. Le vendredi 17 avril à 18h30, Bible en partage. Voilà, et puis j'ai une annonce à Kate à vous faire. Donc, on a reçu l'appel du mois. Ça concerne un pasteur colombien. Donc, ce dépliant, vous pouvez le trouver en sortant à droite sur le présentoir. L'appel, voilà. Donc, le pasteur colombien José Otoniel Ortega, membre de l'église Foursquare Gospel, a été tué dans une attaque ciblée alors qu'il célébrait le nouvel an en famille. Il est le 11e responsable religieux assassiné depuis novembre 2024 en Colombie. Donc, si vous voulez soutenir la CAT, vous avez donc une carte postale ici à remplir et à détacher et à envoyer. Bon dimanche.
Alors, merci aussi à Aude et Edith qui ont, pour la première fois, assuré l'accueil. Donc, voilà. Je vous invite à vous associer à la prière d'intercession. Ô Christ ressuscité, tu es auprès du Père et tu intercèdes pour nous. Accueille les prières que nous te présentons. Tu es devenu le chef de l'Église, accorde-lui la grâce de te servir partout avec courage et avec zèle. Tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre. Manifeste ta puissance parmi les peuples et ceux qui y dirigent. Seigneur vivant, tu as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie. Console les affligés, relève ceux qui perdent courage, affermis leur foi en ta victoire. Tu es entré dans la gloire à travers beaucoup de souffrances, viens au secours de ceux qui souffrent et guéris les malades. Tu as vaincu la mort, tu as enlevé sa puissance. Maintiens-nous dans l'espérance de la résurrection, sois avec nous à notre heure. Seigneur vivant, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te bénissons. À toi, comme au Père et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et au siècle des siècles. Seigneur, souviens-toi de nous, de ton règne. Apprends-nous toi-même à prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et nous terminerons évidemment en chantant le dernier cantique. S'il te plaît, mon Dieu, je viens chercher un peu d'air de ressuscité. Je ne sais pas comment c'est, mais tout le monde me dit que ça me ferait le plus grand bien. Il paraît qu'à la sortie des messes, des cultes, les chrétiens, c'est pas vraiment ça. Ils sont trop l'air fermé et triste. S'il te plaît, mon Dieu, un peu d'air de ressuscité. Tu te rends compte, mon Dieu, les autres comptent sur mon air pour vérifier que tu es vraiment ressuscité. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allez sur le chemin de la vie, confiant en cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde de son amour. Amen. Dimanche à tous.